Bonjour mes très chers auditeurs, ravi de vous retrouver toujours en direct du salon des médecines douces, du bien-être et de la thalassothérapie à Porte de Versailles sur le stand G39. Voilà, n'hésitez pas à passer, à nous faire vos coucous, à nous faire vos retours sur la radio. C'est toujours un immense bonheur de vous rencontrer. Alors tout de suite, on va parler d'alimentation, on va parler de naturopathie et partir d'un ouvrage qui a été écrit par Stéphane Tétard, que les auditeurs connaissent déjà, et Vanessa Lopez, Secret de naturopathe. Bonjour à tous les deux, bonjour Stéphane.
Bonjour Nathalie.
Bonjour Nathalie.
Alors on se partage un micro pour trois, on a deux casques pour trois, bon, on va improviser en fonction du moment. Expliquez-moi déjà votre rencontre à tous les deux. J'imagine cette rencontre a ensuite créé cette idée de lancer un livre, de parler de naturopathie ensemble. Qu'est-ce que ça apporte de parler de naturopathie tous les deux?
Alors, quand on s'est rencontrés, il y a très longtemps, sur le bord d'une rivière, on faisait un stage de développement personnel. On n'était même pas la même année et on a beaucoup échangé. Puis, on ne s'est pas vu. Et bien longtemps après, un jour, je crois que je donne une conférence sur la viande, sur le végétarisme plus exactement. Et je retrouve Vanessa. Et là, on reprend contact, on échange. T'es naturopathe? Ah oui, t'es naturopathe. Donc, on échange un peu sur notre profession. Et puis, à un moment, donc on a vraiment eu des liens assez proches. On a beaucoup échangé tous les deux. Et puis, à un moment, les éditions Le Duc me demandent de rédiger un livre. Et je commence à me mettre en place, mais c'est un gros travail. Et surtout, il y a un gros travail de recherche. C'est bien de faire des informations synthétiques, mais il ne faut rien oublier. Et donc, on a décidé de se mettre ensemble avec Vanessa sur ce projet-là pour combiner notre force de travail. Donc, on a préféré faire un ouvrage à deux qui soit le... l'idée, c'est de combiner son côté très pragmatique, très complet, et mon côté très synthétique. Donc de faire un livre à la fois complet et synthétique. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Vanessa?
Oui, c'est tout à fait ça, en fait. Moi, j'aime beaucoup aller au fond des choses, rechercher énormément les informations. Et avec Stéphane, de toute façon, en plus, on a des écoles, on a des compétences différentes et complémentaires, et donc c'est aussi l'intérêt finalement de travailler à deux, on va plus loin, comme le dit finalement aussi le dicton, c'est vrai qu'on est plus fort à plusieurs.
Est-ce que le fait que ce soit un homme, une femme, ça rajoute quelque chose aussi?
Oui, je pense aussi, on a vraiment deux approches complémentaires, et bizarrement, si tu lis le livre, tu n'arriveras pas à différencier les parties qui a écrit quoi, simplement parce que toutes les pages ont notre plume. Chacun a eu sa petite partie boulot, mais l'autre a complètement relu et corrigé pour être cohérent en termes de ton. Et donc on a vraiment quelque chose qui est très très cohérent du début à la fin.
Oui, chacun a rajouté sa touche à chaque fois, et c'est vrai que les éditions, enfin toutes les personnes qui ont déjà lu le livre nous ont vraiment dit qu'ils trouvaient qu'on dirait qu'il n'y a qu'une seule personne qui a écrit le livre.
Bon, donc c'est vrai aussi que parfois, quand on lit dans la complémentarité de personnalités, de manières d'exercer, évidemment, qui sont différentes. Hein. Là, je rencontre beaucoup de thérapeutes sur ce salon. Et du coup, je leur dis, parce qu'ils me disent, c'est quoi vos critères pour caster des gens? Et je leur dis, c'est avant tout les personnalités. Parce que c'est vrai que les approches sont un outil, finalement. La naturopathie est votre outil. Mais j'imagine que vous deux, vous l'exercez avec ce que vous êtes. Donc du coup, ça crée deux manières d'exercer qui sont différentes. Et on y met son énergie. Finalement, on finit par incarner ces métiers avec la personnalité que l'on a aussi de départ.
Oui, on a vraiment ce côté... Là, c'était vraiment une co-création où des fois, il y a eu son point de vue, mon point de vue, le point de vue de Vanessa, mon point de vue, et on a réussi à trouver un compromis qui est acceptable. Alors, ce n'est pas un compromis en disant mi-figue, mi-raisin, c'est de dire ni l'un ni l'autre n'avons raison. On le sait, c'est une question de point de vue. Donc, on a essayé de poser justement que les deux points de vue étaient justes. Et dans quel cas, apprendre, aider aux gens à identifier dans quel cas ils ont intérêt à suivre telle voie ou telle voie. Donc, on est assez ouvert et des fois, on s'ouvre à des choses qui sont presque jusqu'à être l'opposé, puisque en fonction de la personne, la bonne voie sera une chose ou son opposé. Quand on voit les tempéraments, par exemple, on a vraiment des comportements qui sont très différents. Donc, par exemple, toi, tu connais bien ce problème-là, où pour des problèmes de poids, en fonction du tempérament, on va utiliser une stratégie ou une autre.
Non, mais finalement, j'allais parler un petit peu et rentrons dans le vif du sujet. La naturopathie est parfois pleine de dogmes, même de rigidité. Est-ce que vous avez voulu justement y mettre la souplesse de dire on est tous différents, on a tous des besoins différents. L'alimentation, on peut pas faire de grandes recettes toutes faites finalement. Il n'y a pas une bonne alimentation. Il y a l'alimentation qui nous convient à nous. Est-ce que ça, on peut le répéter aujourd'hui pour tous les gens qui sont perdus face à des informations très contradictoires, mais peut-être les inviter tout simplement à l'expérience, à l'expérimentation alimentaire.
C'est tout à fait ça en fait. L'idéal, c'est vraiment d'apprendre à se reconnecter à soi, à se reconnecter à son corps et apprendre à voir expérientiellement ce qui nous convient, comment ça répond sur le corps, si je vais avoir des problèmes de ventre ou qu'est-ce que ça engendre, comment je me sens, parce que ça joue aussi sur les émotions et on peut être plus en colère ou triste en fonction des aliments qu'on va manger. Donc c'est aussi un apprentissage et c'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un chemin. Et bien sûr, il n'y a pas une façon de faire pour quelqu'un. Donc c'est vrai que certaines personnes prônent telle alimentation pour tout le monde, mais ça, ce n'est pas possible. On est vraiment tous différents, donc il faut justement réapprendre différemment et apprendre à se reconnecter à soi.
Oui, tout à fait. Certains thérapeutes ont un peu l'habitude de préconiser le filtre de ce qu'ils ont expérimenté. Oui. Donc, c'est un peu comme si tu allais chez l'opticien et qu'il te disait, bon, ben, c'est les lunettes pour les myopes les meilleures. Ben non, en fonction de la personne qui est en face de moi, c'est des lunettes pour myopes, les lunettes pour hypermétropes. Donc, c'est normalement tout l'art du naturopathe de savoir quel est le bon outil pour toi. Et même dans ce cas-là, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est qu'on énonce une règle. Par exemple, manger le fruit après le repas est en général fait gonfler le ventre et pose des problèmes de digestion. Mais je finis toujours par le côté très pragmatique, essayer et mesurer. Et bien souvent, j'ai des gens qui me disaient « Non, je ne pense pas que ce soit un problème. » Je leur dis « Faites-moi plaisir. » Enfin, quand je soupçonne que c'est un problème, hein, y a des gens pour qui je sais que ce n'est pas un problème. Les gens pour qui c'est un problème, je leur dis d'essayer. Et ils ont un avant et un après. Ils ont mesuré. Donc, c'est même pas, il y a des principes, des explications. Bon, on les a, on a la théorie. Mais il y a la pratique. J'ai fait ça, il y a eu un avant, il y a eu un après. Et c'est très dangereux, les dogmes. Enfin, les dogmes sont très dangereux parce que suivre les dogmes sans écouter son corps, c'est dangereux. C'est-à-dire, par exemple, il y a des gens qui disent la cure de jus de citron, c'est excellent. Eh bien, si tu es très frileux, la cure de jus de citron peut être fragilisante. Je connais même quelqu'un, ah oui, j'avais une cliente, elle était à la limite et pour elle, elle avait expérimenté une fois que la cure de raisin était excellente pour elle. Génial. L'année suivante, elle était très fatiguée. Elle se dit, oui, vivement, la cure de raisin où je vais être encore en pleine forme. Et elle était dans son objectif de tenir 10 jours de cure de raisin. Et ça a été une descente en enfer. À la fin des 10 jours, elle est tombée malade. Parce qu'en réalité, elle était trop fatiguée pour supporter le peu d'acidité qu'il y avait dans le raisin. Et c'est devenu mauvais pour elle. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est notre gros travail, c'est d'amener les gens à se reconnecter avec leur corps. Donc souvent, le livre donne des principes, mais il y a les principes. Il y a ce que ça donne dans mon corps, ce que ça doit donner dans mon corps, si je correspond à ce principe. Et c'est à moi de le vérifier. On doit apprendre à se connaître. Une pomme, c'est excellent pour la santé, sauf si tu ne les digères pas. Donc, il ne faut pas se forcer à manger une pomme si tu ne la digères pas, si ça te fait mal au ventre à chaque fois que tu digères une pomme.
En plus, ce qui est intéressant et ce que tu soulèves, c'est que d'une année à l'autre aussi, en fonction de son état de santé, c'est-à-dire que cette personne-là, une année, ça lui a très bien convenu de suivre cette cure de raisin, mais elle n'a pas écouté son corps parce qu'elle avait vu les bienfaits l'année d'avant et l'année d'après, ça l'a rendu du coup très malade. Donc, en plus de savoir ce qui nous convient, bah, d'un moment à l'autre, en fonction de ce que l'on vit, parce que la vie va nous amener des épreuves, ou quelque part, les gens disent des problèmes. Moi, je vois toujours ça comme des objectifs de surmonter, d'évoluer personnellement. Et donc, du coup, quand on est un peu amoindri, un peu fatigué, voilà, c'est toujours l'idée de se ramener à qu'est-ce qu'on ressent, comment on sent le corps, qu'est-ce qu'on est capable de tenir, en fait. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de la notion de plaisir qui est aussi importante en naturopathie. On oublie d'en parler. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de changer leur alimentation. On sent qu'il y a même beaucoup de violence quand on parle d'alimentation. Voilà, je vois avec les quelques émissions que je fais, les réactions sont très vives quand on touche à l'alimentation comme si c'était une vraie liberté personnelle. Les gens ont peur de perdre la notion de plaisir. Est-ce que la naturopathie gomme la notion de plaisir dans l'alimentation ?
On garde la notion de plaisir, elle est primordiale, puisque en effet, comme tu le dis très bien, l'alimentation, ça touche au psychologique, c'est émotionnel. Beaucoup de gens se nourrissent en fonction de leurs émotions. Et donc, si jamais on gommait cet aspect de gourmandise et de plaisir, en même temps, ça pourrait être plus nocif. Vraiment, donc c'est vraiment très important. Quand on change son alimentation, c'est déjà d'y aller très progressivement, en douceur, et pas tout changer en même temps, parce que au final, après, on va pas avoir envie de continuer et on va tout arrêter, c'est vraiment dommage. Y aller, voir les petits pas qui se font, le reconnaître et se féliciter, et en même temps, apprendre autrement. Alors, si on n'est pas doué pour faire la cuisine, peut-être prendre des cours de cuisine avec des naturopathes ou avec des personnes qui proposent des choses en alimentation saine. Mais vraiment apprendre à cuisiner sainement et avec plaisir, c'est primordial. Ce serait une des règles aussi primordiales de la naturopathie.
Tout à fait. Voilà, la dimension plaisir est hyper importante. Moi, à certains clients, je leur dis même, quand vous faites ça, quand au lieu de prendre des pâtes avec du gluten qui vous fait mal au ventre, vous prenez du riz basmati qui est savoureux, dites-vous que vous ne vous privez pas, dites-vous que vous faites un acte d'amour pour vous, pour être en pleine forme. Eh bien, j'ai même eu des personnes qui ont pleuré parce qu'elles avaient oublié, elles étaient toujours dans l'obligation, dans le « il faut », alors que bien manger et bon manger, c'est un acte d'amour. Et effectivement, on a nos habitudes, nos réflexes. Effectivement, ma mère me faisait des coquillettes jambon. Donc, j'ai un petit coin de mon cerveau qui se rappelle de ça. Mais je peux m'offrir un acte d'amour différent sans prendre des coquillettes et avoir mal au ventre.
Bon, maintenant, on peut trouver aussi assez facilement, le marché du sans gluten est de plus en plus important. Et on peut trouver des pâtes qui sont savoureuses et sans gluten. Ne serait-ce que je pense au pain et à des boulangeries qui font d'excellentes pâtisseries, de l'excellent pain sans gluten. Vous avez tous les deux organisé la présentation de votre livre dans une pâtisserie sans gluten, il me semble, dont on est en train de manger les gâteaux là pour 17h. C'est le tea time, c'est le yogi tea time. Voilà, on trouve des endroits où aujourd'hui on peut consommer, si on parle du sans gluten en tout cas.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a de ça quelques années, quand j'ai commencé à m'intéresser à la problématique, le sans gluten, le cru, le végé, c'était panajouir. Ah, je peux t'assurer, par exemple, la gamme Carrefour bio, c'était à te dégoûter du bio. J'achetais des petits pots pour ma fille, j'avais mauvaise conscience de lui donner ça. Parce que ce n'était pas réussi. Aujourd'hui, le marché s'est vraiment développé et aussi bien les industriels, bon, qui ont trouvé là un marché juteux, il faut le reconnaître, mais arrivent à nous proposer des produits qui sont intéressants, sans gluten, bio, et même dans les restaurants crus. Là, on était au Gâté, qui nous fait des petits breakfasts, des petits déjeuners sans gluten, qui sont de vrais plaisirs. On peut parler de nos adresses parisiennes. Et moi, il y a un restaurant que j'adore qui est le 42 degrés où tu manges cru, mais même si tu emmènes un omnivore avec toi, il va se régaler, il va manger sans lait, sans gluten, sans viande, sans produits raffinés. Et pourtant, il va se régaler. Et bien qu'il sera un peu titillé au niveau du cerveau de ne pas avoir eu son morceau de viande, il va se dire, c'est bizarre, je suis quand même bien rassasié et je suis même pas lourd. Donc aujourd'hui, il y a eu tellement de réflexions sur cette alimentation santé que ça devient vraiment une alimentation santé plaisir. Et donc c'est de plus en plus facile, et c'est ce qu'on fait avec Vanessa, c'est de faire des ateliers où on explique aux gens comment mettre en pratique l'alimentation santé.
Par contre, je voudrais juste dire, quand on parle du sans gluten, justement, tous ces produits qui sortent aussi maintenant dans les rayons bio, qu'il faut quand même faire attention et pas remplacer le blé par tout le sans gluten, parce que j'en vois dans les boutiques bio quand je vais faire mes courses, qui remplissent tous les justement les comment qui remplissent leur caddie de tous les produits sans gluten. Mais quand on regarde, il faut de la malbouffe sans gluten, il faut apprendre à lire les étiquettes, parce que c'est pas parce que c'est sans gluten que c'est bon. Et il y a plein de produits où, en fait, c'est du maïs, où il y a beaucoup de maïs et d'autres choses qui ne sont pas forcément bonnes, avec un index glycémique très élevé. Donc, il faut vraiment faire attention à ça et pas se dire, parce que c'est bio et parce que c'est sans gluten, c'est bon. Non, toujours se remettre en question et se demander si c'est bon pour soi et apprendre à lire les étiquettes aussi.
Non, mais c'est vrai que c'est un phénomène, et du coup dans l'alimentation on est vachement ancré sur nos habitudes, et on voit beaucoup de gens, tu sens qu'ils ont quitté le supermarché industriel pour remettre un peu la même chose, en fait calquer le panier qu'ils avaient dans un supermarché classique en bio, et donc du coup c'est pas vraiment la première chose à faire. Donc ça me crée ma transition, parce que j'aimerais qu'on parle des grands axes en naturopathie, notamment la vitalisation, l'importance de manger des fruits et des légumes qui soient crus ou cuit même basse température. Voilà, ça c'est très important en naturopathie. Il me semble que l'élimination aussi est importante. Mais retrouver le goût des produits de saison, ça c'est quelque chose que vous évoquez dans cet ouvrage.
Oui, l'alimentation, alors c'est la première chose sur laquelle on insiste. Et il y a très peu de gens avec qui on finit pas par dire « bon, faut manger plus de légumes ». Alors plus de légumes, plus de vivants, plus de digestes. On est vraiment dans un monde où déjà on a de moins en moins de sources alimentaires de qualité. Alors surtout si on habite à Paris, où la plupart des légumes, ça fait plus d'une semaine qu'ils ont été cueillis, donc ils sont moins vivants. Donc on a les graines germées qui peuvent être une bonne solution, les AMAP ou les circuits courts. C'est toujours important de prendre des aliments frais. Alors les gens qui ont l'habitude des aliments en conserve, les gens qui ont l'habitude de manger des féculents. C'est bien simple, il est difficile d'être en bonne santé dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, parce qu'on vit dans un monde qui est pollué, donc il nous faut les nutriments pour nous défendre de la pollution, alors que l'alimentation est de plus en plus pauvre en antioxydants, et en plus, même les légumes, on en mange de moins en moins. Donc il faut, fruits et légumes, en fonction des repas, rajouter les deux, les remettre en grande quantité. Pour nous, ça devrait représenter plus de la moitié de l'alimentation. Alors il y a des gens qui regardent avec les yeux gros comme les soucoupes. Mais quand on le met en pratique, quand on sait que les noix, les amandes, les noisettes, ce sont des fruits, quand on sait qu'on peut faire une collation, au lieu de prendre une tablette de chocolat ou un éclair au chocolat, une banane, des noix, des amandes, des noisettes, ça marche très bien. On peut faire un petit déjeuner à base de fruits qui est très rassasiant. On peut faire des choses à base de légumes et de légumes racines qui tiennent bien l'estomac pendant les repas, en prenant plutôt des légumineuses qui sont très complètes, qui sont souvent complètes, et moins calorique que les céréales, on arrive à baisser notre charge calorique et à emmener la quantité de vitamines et minéraux. Et en plus, la cuisson est très importante. La cuisson, la friture, comme ma voisine, y a plus de vitamines et minéraux. Alors c'est bon, c'est croquant, mais en fait, il n'y a pas de vie. Et elle s'étonne d'avoir des problèmes de poids, de cœur, de peau, exactement. Donc la qualité de l'alimentation, on a de plus en plus conscience, et on a de nouveaux outils, des outils de cuisine comme les extracteurs de jus, les centrifugeuses, les blenders, les déshydrateurs, qui est intéressant aussi pour densifier les nutriments, puisqu'on enlève l'eau, mais on n'enlève pas la densité nutritionnelle. Donc on enlève 10% d'eau, et le peu de vitamines et de minéraux sont multipliés, puisque par exemple des pommes séchées vont contenir beaucoup moins d'eau, donc en mangeant, je peux manger beaucoup plus de quantité, et beaucoup plus de vitamines et minéraux, et en plus en me régalant.
Et ça se digère très vite et très bien. Parlons peut-être de l'élimination aussi. J'ai évoqué la constipation il n'y a pas très longtemps sur la radio. Ça aussi, pour se maintenir en bonne santé, évidemment, il faut avoir un bon système d'élimination. La naturopathie le préconise fortement.
Oui, tout à fait. On préconise, dans l'idéal, normalement, on devrait faire vraiment un minimum d'une cure de détox par an. Pour vous donner un petit exemple, c'est comme si vous essayez de faire pousser des plantes sur un terrain rempli de mauvaises herbes. Eh bien, elles pousseront beaucoup moins bien. Et comme vous entretenez votre voiture chaque année, enfin, comme on entretient, enfin, moi, j'ai pas de voiture personnellement, mais les personnes qui ont une voiture, ils l'entretiennent, ils la font réviser afin qu'elle soit plus performante et qu'elle ne tombe pas en panne. Eh bien, nous, c'est exactement la même chose, en fait. Si on le fait pas, on est vraiment plus sensible aux infections, aux maladies, aux allergies, aux problèmes de peau, etc., etc. parce que les toxines et les déchets s'accumulent jusqu'à l'encrassement. Et donc, c'est vraiment un des principes aussi de base de la naturopathie, de faire une petite détox par an.
Alors, il y a la détox, mais il y a aussi le fait d'éliminer quotidiennement, de bien éliminer. C'est vrai que l'apport en fruits et légumes permet ça.
Les fibres, oui, tout à fait. Il faut un minimum de fibres pour pouvoir éliminer. Et c'est vrai qu'en naturopathie, d'ailleurs, dans les consultations, ce qu'il y a le plus, c'est quand même les problèmes digestifs. Il y a énormément de problèmes qui ont des gens qui ont des problèmes digestifs. Et c'est ce qui nous permet aussi, justement, de voir que ça ne va pas. Et
d'inciter les gens, de toute façon, à changer des choses dans leur alimentation. C'est sûr que si on se bourre de gluten, on ne va pas pouvoir éliminer de manière simple.
Oui, tout à fait. Souvent, en fait, moi, ce que j'observe dans mes consultations, c'est les associations alimentaires que les gens ne savent pas. Parce que c'est vrai que c'est tous ces principes de base qui sont normalement naturels, on devrait les apprendre à l'école. On devrait avoir des cours de naturopathie à l'école. Et si on nous enseignait ça à l'école, on n'aurait pas tous ces problèmes. Et c'est vrai que pour moi, ce que je vois en priorité chez les gens, c'est qu'ils associent pas les bons aliments entre eux. Et du coup, ça crée énormément de problèmes de digestif, de ballonnement, de flatulence, de constipation, etc. Et c'est vrai que c'est la base, l'intestin. On dit d'ailleurs que le deuxième cerveau est dans l'intestin. Notre intestin est fait de milliards de cellules nerveuses. Et c'est très important d'en prendre soin, en effet.
C'est un vrai système nerveux, l'intestin, en fait. Vraiment à part entière. Et réfléchit par lui-même. C'est-à-dire qu'on réfléchit avec notre ventre. On oublie ça. Et on oublie qu'évidemment, l'alimentation a un impact immense là-dedans. Et que si on est pollué par des choses qu'on n'arrive pas à éliminer, que l'intestin, il est lourd, il est gonflé, on ne va pas pouvoir être très clair dans sa vie, dans ses choix, dans la route à suivre, dans les décisions à prendre. Ça peut partir de là, avant tout, en fait. Les problèmes émotionnels. Est-ce qu'on pourrait même se dire, parfois, c'est par des problématiques d'alimentation que naissent ensuite des problématiques de vie, à avoir du mal à être épanoui, avoir du mal à se positionner, avoir du mal à avoir confiance en soi, à s'aimer?
Alors, c'est tout à fait possible. Déjà, il faut savoir que les intestins, c'est les fabricants de sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bien-être et c'est l'hormone de la société. Donc, la plupart du temps, quand je prends un antidépresseur, non, j'en prends jamais. Quand on prend un antidépresseur, c'est un inhibiteur de la recapture de sérotonine. Donc le gros problème des dépressions, ou de l'anxiété, c'est surtout la dépression, c'est le manque de sérotonine. Parce que les gens trouvent normal d'avoir le ventre qui gonfle après le repas, d'avoir mal au ventre, d'avoir des gaz, d'avoir un gros coup de pompe après le repas, c'est normal, voire d'avoir mal. Et c'est pas normal du tout. Si on a ces symptômes-là, alors je parle pas de la constipation ou de la diarrhée. Alors, il y a des gens qui arrivent à avoir les deux en plus en alternance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais c'est normal d'avoir le ventre qui gonfle, d'avoir un coup de pompe après le repas. » Ils ne se rendent pas compte que c'est un indicateur que la digestion est en train de mal se passer. Et quand elle se passe mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bons nutriments ne rentrent pas dans le sang. Par contre, il se crée des substances indésirables qui, elles, rentrent dans le sang et nous empoisonnent, donc nous influencent, puisque déjà cet organe du bien-être est en souffrance, donc on emmagasine de la souffrance, on n'a pas les éléments, les vitamines et les minéraux pour se défendre, et on a des substances toxiques qui nous font nous sentir moins bien. Donc ils vont sortir de la sphère digestive pour aller, j'ai des migraines, des nausées, des problèmes de peau, ou d'autres problèmes, c'est incroyable, mon système immunitaire qui s'écroule, avec des répercussions sur l'humeur, sur la mémoire, c'est assez impressionnant. Pour être franc, moi, dans mes consultations, dans 80% des cas, mes clients sont juste en manque de vitamine B et de magnésium. Ce qu'on trouve dans les légumes, les noix, les noisettes, enfin les oléagineux et les légumes secs. Et parce que la vie d'aujourd'hui, elle ne nous fait pas dépenser des calories, elle nous fait dépenser des vitamines, des minéraux. Donc déjà qu'ils n'en mangent pas beaucoup, mais en plus comme ils mangent des choses qui ne leur conviennent pas, parce que j'ai toujours mangé du lait et du fromage, je suis breton... oui, mais c'est un breton qui ne digère pas les produits laitiers. Donc, ça peut être de temps en temps, mais au quotidien, il s'empoisonne à chaque fois qu'il se prend son pain et son fromage.
Voilà, il vaut mieux se faire une part de Queen Yaman de temps en temps que de se faire tous les jours et être mal, parce qu'évidemment le Queen Yaman, enfin je prends l'exemple extrême et ma mère est fan de Queen Yaman, mais bon, bah, on le sent passer le Queen Yaman.
Oui, tout à fait. Justement, on parlait du plaisir tout à l'heure, il faut savoir qu'il n'y a aucune interdiction. Il n'y a aucun restaurant, aucun endroit que je m'interdis. C'est juste au rythme. Je dois aller régulièrement au McDonald's, ou à l'équivalent, je l'avoue, deux fois par an. De temps en temps, avec ma fille ou avec les enfants de mon ami, on se fait, en plus on appelle ça un repas burke. Donc on le fait en conscience. Mais pour eux c'est important qu'on respecte, parce que quand je suis arrivé, ben, certaines habitudes alimentaires ont changé. Donc ben, je leur dis, ok, moi je vous fais goûter des choses qui sont pour être bien pour votre corps, mais j'accepte les choses que vous aimez. Ça reste des exceptions. C'est-à-dire que si on dit, je fais ça, mais je sais que c'est pas bon, mais c'est exceptionnel, il n'y a pas de problème. Si je fais tous les jours, je dis, je fais ça, je sais que c'est pas bon, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire ça, là, c'est problématique. Donc, même quelqu'un qui va me dire, je suis intolérant au lait ou au gluten, alors, je ne parle pas des cœliaques, eux, évidemment, dès qu'ils prennent un morceau de gluten, ils ont hyper mal. Mais la plupart des gens qui sont intolérants, c'est plus la répétition d'aliments fragilisants qui leur pose problème, eh bien, ils peuvent se permettre une, deux exceptions dans la semaine, ce qui fait qu'ils ont un repas où, quand ils vont chez des amis, ils se font une quiche Lorraine et ils ne se posent pas de questions. Mais le reste du temps, ils ont une alimentation qui... Enfin, ils ont ensuite le ventre qui gonfle, ils ont la petite diarrhée, mais leur corps gère très bien. Un petit peu tous les jours, ça les empoisonnerait. Une fois de temps en temps, leur corps gère très bien. Donc, et puis, ça me permet aussi de ne pas être frustré. C'est-à-dire que si j'ai envie d'un bon plateau de pain de fromage et que je suis intolérant, je vais le faire une fois par semaine, je vais choisir les meilleurs fromages, un bon pain, et je vais me régaler. J'aurai un peu mal au ventre après, la diarrhée le lendemain, et ça sera passé. Si tous les jours, je ne peux pas m'empêcher de prendre un camembert de supermarché, eh bien, je n'ai pas tant de plaisir, et en plus, j'accumule le problème de santé.
Oui, c'est vrai que c'est toujours l'excès d'aliments qui est vraiment problématique, puisque le corps a une certaine capacité à se détoxiquer par lui-même. Mais par contre, quand ça devient tous les jours ou plusieurs fois par semaine, on mange un aliment un poison, enfin, on appelle ça poison, c'est vrai que là, ça devient problématique. En fait, il faut savoir que dans tous les aliments, ils nous font sécréter des hormones, tous les aliments ou certaines plantes aussi. Donc, même si on mange du brocoli tous les jours à chaque repas, ça peut être problématique et on va avoir plus de vitamines ou de minéraux de cet aliment-là, auquel on peut être aussi intolérant d'ailleurs. Et pour donner un exemple aussi, ceux qui mangent beaucoup de viande. J'ai des clients qui mangeaient de la viande à tous les repas, matin et soir. Alors, il faut savoir que dans la viande, il y a en fait déjà tous les antibiotiques, etc. Mais la viande stressée, la viande qui n'est pas biologique, elle sécrète des hormones, de l'adrénaline. Et donc, du coup, ça se retrouve dans la chair de l'animal. Et ça peut créer des rages. Des rages. Donc, les personnes sont très en colère et sont sous cette influence de la colère et très colérique et nerveux. Mais ça vient directement de la viande. Et quand ils changent leur alimentation, leur comportement change aussi.
C'est vrai, j'en témoigne. Moi, depuis que j'ai arrêté de manger de la viande, je suis beaucoup plus calme. Ouais, ouais. Non, parce que j'étais une survoltée. Je suis une survoltée, beaucoup trop de feu en moi. Mais c'est vrai que du coup, on en avait déjà discuté avec Stéphane. Et assez naturellement, bon, pour des raisons variées, très variées, j'ai arrêté de manger de la viande pour l'impact écologique, pour la manière dont on tue les animaux, dont on les élève aujourd'hui. Pour dire non aussi quelque part, en tant que consommateur, c'est avec notre argent qu'on a un pouvoir. Donc, pour tout un tas de raisons, j'ai décidé d'arrêter. Mais du coup, j'ai vu l'impact sur ma santé. Je ne tombe quasiment plus malade. Et surtout, je suis beaucoup plus sereine. J'ai un tempérament dans le fond assez nerveux. Et donc, ça m'a apporté une sérénité. C'est beaucoup plus simple de méditer maintenant. Enfin, voilà, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Et en effet, du point de vue émotionnel aussi, pour des gens qui pourraient être un peu tout feu, tout flamme, impulsifs, se mettre assez vite en colère, eh ben, c'est extrêmement apaisant. Moi, ce que j'aime bien dans votre livre, ça me fait penser, là, en le regardant, à un guide de la naturopathie pour les nuls. Il y a toute cette collection. Est-ce que ce sera un petit peu ça, pour le grand public, de découvrir de manière simple, vous avez mis à la portée les informations pour que n'importe qui, une mère de famille, un célibataire, quelqu'un de lambda, puisse comprendre de manière simple ce qu'est la naturopathie.
Oui, tout à fait. On a vraiment voulu faire quasiment un béaba de la naturopathie. Alors, pas un sens un béaba où on passe à la théorie. C'est très vite, on a la théorie, donc on explique les principes, et très vite, on passe à la pratique. Donc, c'est le plus souvent l'assiette. On parle un peu de relaxation, on parle du sport. On parle aussi des tempéraments, de savoir se distinguer les uns des autres, puisqu'on n'a pas les mêmes tempéraments. Tu as le gros baraqué chaud qui, là, en plein hiver, se promène en chemise et qui est capable de digérer des pierres. Et puis, tu as celle qui est frileuse, qui est toujours avec un gros pull, même en été. Et elle, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle a mal au ventre. Donc, l'alimentation idéale de l'un et de l'autre, ce n'est pas la même chose. Alors, tant que j'essaye de manger selon la théorie, j'ai toutes les chances de me planter. Si je sais dans quelle famille je suis à peu près, hein, ce n'est pas des familles fermées, c'est des familles qui communiquent entre elles, eh bien, j'arrive à avoir l'alimentation qui me convient. Mais très sincèrement, on a gardé à l'esprit l'idée de faire un guide, je dirais presque, c'est la naturopathie expliquée à ma grand-mère. Donc l'idée, c'est de reprendre les principes et très vite de revenir au concret. On a vraiment insisté sur théorie concret rapidement. On a essayé quand même de balayer le spectre de toutes les questions qu'on nous pose et qui se posent en termes de santé avec cet esprit ouvert, c'est-à-dire de dire il y a les principes. Alors des fois, il y a les principes. C'est-à-dire qu'il y a le principe A et le principe opposé B. On a un article qui s'appelle « Végétarisme ou omnivore ». Eh bien, ça dépend. Il y a des gens, l'optimal va être plutôt l'omnivore et l'optimal, pour d'autres personnes, va être le végétarien. Donc, alors, comme on disait tout à l'heure, ça évolue aussi avec l'âge. Mais la question qu'on se pose quand on lit ce livre-là, c'est qu'est-ce que je peux faire pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour mes enfants. Il faut avouer que les mamans se posent plus de questions que les hommes, que les papas. Mais ça évolue, hein, on évolue.
Bon, symboliquement, comme on porte la vie, même si on ne fait jamais d'enfant de toute son existence de femme, voilà, c'est dans nos gènes, quoi, quelque part, d'informer, de transmettre, de porter le monde. Hein, je crois que même derrière chaque homme se cache toujours une femme. Donc c'est sans vous jeter la pierre du tout, messieurs, mais bon, quelque part, c'est un peu notre rôle aussi, c'est d'amener l'information auprès des hommes. Mais la partie féminine des hommes aussi, du coup, quand ils sont ouverts à celle-là.
Oui, tout à fait. Enfin, j'essaye en tout cas d'ouvrir ma partie féminine. C'est-à-dire l'accueil. Je parlais de ce que je fais avec mes enfants. J'accueille leur façon d'être. Mais je leur dis, la façon que je vous propose, elle est plutôt santé. Donc vous ferez votre choix plus tard quand vous serez grand. Vous avez les deux. Je ne la condamne pas, votre façon de faire. Je l'accepte totalement exceptionnellement. Donc ça reste exceptionnel, mais... Ils sont pris en compte et c'est surtout mon amie qui a des enfants qui ont entre 7, mais surtout elle a deux ados, avec des papas qui n'ont aucune information au niveau nutritionnel. Donc leur maman est concernée, mais de l'autre côté, il y a le papa qui dit le contraire. Alors moi, je suis le papa de plus, mais enfin un papa qui va du côté de la maman, mais en essayant de leur... c'est horrible. Il faudrait faire un livre sur la coparentalité. Et donc, de montrer ce côté masculin aussi, qui est de montrer, c'est d'ouvrir le champ des possibles et de montrer la bonne voie. Donc, je reste sur ces conseils santé en restant ouvert. Je dis tout est possible, mais voici ce que je vous recommande et ça va plutôt dans le sens de ce que votre maman recommande.
Oui, alors pour revenir à ce que tu disais, on a voulu... proposer un livre qui soit vraiment accessible et compréhensible par le plus grand nombre. La deuxième partie du livre comprend un abécédaire de santé avec des solutions concrètes et pratiques sur beaucoup de situations de la vie, comme la vitalité des enfants, la mémoire, la circulation, la conception, la maternité, les problèmes féminins, les problèmes masculins... mais aussi les fringales, le poids, le stress, etc., etc. Donc voilà, on a voulu balayer le plus grand nombre de problématiques que l'on rencontre, que rencontrent généralement la plupart des gens. Enfin, la plupart. On n'a pas tous les mêmes problèmes, heureusement. On n'a pas tous les problèmes, mais...
Non, mais il y a des phases de vie qu'on a en commun tout de même.
Voilà, c'est ça.
Est-ce que la grossesse, bon bah voilà, toutes les femmes qui à un moment sont tombées enceintes étaient dans la même situation. Après, la manière dont elles le géraient, c'était à chaque fois unique. Bon, bah les chéries, donc Stéphane Tétart, Vanessa Lopez, Secret de naturopathe. J'aime bien ce titre, ça sonne bien, aux éditions Le Duc. Je ne sais pas si vous voulez rajouter juste un petit mot pour conclure cette interview.
on a vraiment eu plaisir à faire ce livre. On l'a vraiment conçu pour que ce soit le plus, justement, le plus plaisant à lire. On a vraiment essayé de ne pas être trop lourd, d'être le plus ouvert, de donner l'information. Et surtout d'être très concret, c'est-à-dire de dire qu'est-ce que je peux facilement faire pour améliorer ma santé aujourd'hui. Ok, je prends 2-3 choses dans le livre, et puis un autre jour je reprendrai 2-3 choses, ou quand j'aurai un problème particulier, ou quand je serai d'humeur à aller plus loin. Je préfère les gens qui... Enfin, je me suis remarqué que les gens qui faisaient marche par marche allaient beaucoup plus loin, et donc on est plutôt comme ça. Enfin, le livre est plutôt étape par étape. J'identifie ce que je suis, je m'occupe de ma détox, et puis je commence à améliorer mon alimentation. Mais c'est étape par étape, c'est pas la peine de tout faire, de le faire dans le plaisir.
Dans l'indulgence.
Dans l'indulgence, voilà. L'amour, de vraiment, s'occuper de sa santé, c'est un acte d'amour, c'est pas une obligation de performance. Donc de le faire avec indulgence, de dire je suis gourmand, ok, j'aime ça, mais à côté, je fais ça et je le fais pour mon bien. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de transmettre, c'est qu'il est possible de se faire plaisir facilement, en se faisant du bien, exactement. Merci Nathalie.
Bien, je souhaiterais dire qu'on souhaite inspirer le plus grand nombre de personnes vers le plus de santé, de bien-être et de vitalité.
Bon, en tout cas, c'est une très très jolie transmission. Merci à tous les deux d'avoir répondu à mes questions. À très bientôt et très chers auditeurs, prenez soin de vous. On vous embrasse très fort. Faites-vous plaisir, mais évidemment en vous faisant du bien. Comme l'a dit Stéphane, c'est quand même la base de tout. Merci beaucoup. À très bientôt.